cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Louis XIV, Vérités et légendes, c'est le titre du dernier ouvrage de Jean-François Solnon, aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Je suis heureux que Jean-François Solnon ait pu se joindre à nous. Il est sans conteste l'un des meilleurs connaisseurs de la cour de France en général et de celle de Versailles en particulier. En sa compagnie, c'est un des premiers rôles de la cour de Louis XIV que je vous propose d'évoquer, la propre belle-sœur du roi, une femme à la verve et à la franchise étonnante, Madame Palatine.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Camille sur l'origine de la brosse à dents.
Décidément, nos auditeurs, notre auditrice en l'occurrence, ne manque pas d'imagination. Ça tombe assez bien, puisque moi non plus, vous allez pouvoir en juger dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
Et oui, je rêve moi aussi, vous le savez. Je rêve comme tout le monde, enfin pas tout à fait comme tout le monde, puisqu'il arrive que mes rêves soient très historiques. Pour un peu, je vous raconterai bien mon entrevue rêvée avec la princesse Palatine. Ce jour-là, à moins que je ne doive dire cette nuit-là, j'ai reçu une lettre tout à fait dans les formes et tout à fait datée de 1710, me confirmant que oui, sans aucun doute, Élisabeth Charlotte de Bavière, la veuve de monsieur, bref, la belle-sœur de Louis XIV, daignait m'accorder une audience. À vrai dire, sur le coup, je n'ai pas souvenir d'avoir fait une telle demande, mais je pense que vous serez d'accord, un privilège comme celui-ci ne se refuse pas. Me voici donc très vite, sans trop comprendre par quel miracle, au rendez-vous. J'ai oublié de vous dire que l'audience devait avoir lieu au pavillon royal de Marly, dans les appartements collés à ceux du roi lui-même et occupés par madame. C'est ainsi qu'on l'appelle à la cour. Madame, après tout, est la veuve de monsieur. Donc, je me présente à un garde qui fait appeler un maître d'hôtel. On examine ma lettre. Autant vous dire que je suis dans mes petits souliers. C'est bon, tout est en règle. Me voilà bientôt planté devant une belle porte sculptée, sans dorure. Il y a très peu de dorure à Marly. On va vous ouvrir d'un instant à l'autre, me dit le bonhomme, avant de disparaître comme il était venu. Et voici qu'en effet, les deux battants s'ouvrent sur le cabinet d'angle. Visiblement, c'est l'endroit qu'on a choisi pour l'audience. Habituellement, on ouvre à deux battants pour les princes du sang. J'ai à peine le temps d'observer la pièce, somptueuse, quoique assez sobrement décorée, et déjà, madame entre de son côté. Elle est accompagnée de trois dames de sa suite et de quelques petits chiens qui jappent, qui sautillent à ses pieds. Elle marche un petit peu lourdement, mais elle répond à ma révérence avec beaucoup de grâce. Et déjà, elle s'assoit sur un vaste canapé et d'un geste qui ne manque pas de grandeur, elle me désigne une chaise sur la droite. J'ai un petit peu impressionné, évidemment, je débite mon compliment et rapidement, je fais défiler dans ma tête les sujets qu'il faut ou non aborder. Parce que vous avez le droit, avec madame, de, bien sûr, de vanter les mérites du duc d'Orléans, son fils. Ça, ce sera forcément bien reçu. En revanche, mieux vaut éviter toute référence à sa belle-fille, la petite bâtarde royale qu'elle méprise. Que dire du souvenir de monsieur et de ses mignons. Surtout, il serait très imprudent d'évoquer les anciens malheurs du Palatinat, la chère terre natale de la princesse, autrefois dévastée avec une violence inouïe par les armées de Louis XIV. La princesse écoute d'une oreille pas très attentive les quelques phrases banales qui me viennent comme ça à la tête. En fait, moi-même, je suis un petit peu distrait, je suis tout occupé à l'observer. Imaginez-la, elle porte une robe de cour en brocart mordoré, bordée d'une gaze noire. Je suis saisi du contraste que ça fait avec la blancheur de sa poitrine et de ses bras, qui sont des bras dodus. Sa chevelure est blanche et bouclée, son visage est un petit peu vieilli avec des petits yeux, un nez un peu tort, un double menton, opulent. Tout ça forme un ensemble assez disgracieux, il faut bien le dire, mais d'une noblesse qui en impose. Pas de fard ni de poudre, son teint est d'ailleurs si rouge qu'elle éprouve le besoin de s'en justifier. « J'ai fait des exercices violents, me dit-elle, ce qui m'est toujours très salutaire. » Et elle ajoute, avec cet accent tudesque qui tout de suite me frappe, « L'on chasse ici dans le plus bel endroit du monde, car le parc de Marly est un véritable jardin. En ce moment, toutes les haies sont en fleurs et parfument l'air. Avec cela, les rossignols et les autres oiseaux chantent si bien qu'on s'y console parfaitement. » Aux yeux des quelques privilégiés qui sont invités par le roi à Marly. Le véritable charme de cette résidence très, très sélecte, si je puis dire, est ailleurs. Ici, et seulement ici, on est autorisé à prendre des libertés avec l'étiquette. Et on peut dire que, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, Madame ne partage pas l'enthousiasme commun. « On ne sait plus du tout qui on est, dit-elle. Quand le roi se promène, tout le monde se couvre. Ici, au salon, tous les hommes sont assis devant Monsieur le Dauphin, quelques-uns même étendus tout de leur long sur leur canapé. » Les dames de la suite, qui sont peut-être un petit peu gênées par la franchise de leur maîtresse, qu'elles connaissent bien, pourtant tentent de faire diversion. On redouble de délicatesse, on me tend un plateau couvert de fruits confits. Madame m'invite à me servir et puis elle puise elle-même sans contrainte dans la pyramide des friandises. Elle reprend. « J'ai grand-peine à m'habituer à cette confusion, monsieur. Cela ne ressemble plus du tout à une cour. » J'ai bien noté qu'à propos du parc de Marly, Madame m'a dit tout à l'heure qu'on s'y consolait parfaitement. Alors le mot m'intrigue évidemment et je lui demande quel chagrin la préoccupe en ce moment. La princesse ignore, ou en tout cas feint d'ignorer mon indiscrétion. Elle préfère reparler de cette chasse qu'elle aime tant. « Je crois que l'exercice à pied est plus favorable à la santé que le cheval, mais je suis devenue trop lourde et je ne peux plus bien marcher, dit-elle. Je m'en tiendrai donc au cheval aussi longtemps que je pourrai. » Un haussement d'épaule et puis elle ajoute « J'ai vu prendre certainement plus de 1000 cerfs et fait maintes chutes à la chasse. Sur les 26 que j'ai faites, je n'ai eu de mal qu'une seule fois. » En disant cela, elle se met à rire. « Ces dames limites, j'ai de la chance, cette bonne humeur va sans doute me permettre d'aborder maintenant les vrais sujets. »
Sur Europe 1, un extrait de la symphonie pour le souper du roi de Michel Richard de Lalande au cœur des appartements d'Elisabeth Charlotte de Bavière. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre entrevue rêvée avec la princesse Palatine. Tous les propos prêtés à la princesse sont extraits de ses lettres.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Elle a été le témoin privilégié de la cour de Versailles. Nous avons la chance d'assister à vos côtés, Franck Ferrand, à votre entrevue rêvée avec la princesse Palatine.
Eh oui, il faut quand même le dire. C'est une rêverie un peu dirigée et je vois Madame maintenant dans de très bonnes dispositions. Ça lui a fait plaisir d'évoquer toutes ces chasses. Alors, j'en profite moi pour l'interroger sur les derniers événements de la cour. Air faussement détaché, voyez, elle me dit « Oh monsieur, nous n'avons rien de neuf ici, il ne vous intéressera guère de savoir que notre vieux roi est allé à cheval tirer des perdrix, tandis que les jeunes gens se font traîner en roulette. » Vous voyez, toujours le relâchement général des mœurs lui pèse visiblement. « Les jeunes gens se piquent de ne rien savoir ni connaître, dit-elle. Un jeune homme qui est d'une des meilleures maisons fait la révérence plus gauchement qu'aucun paysan derrière sa charrue. Ne rien savoir, ne s'entendre à rien, être impoli, grossier, c'est là la gentillesse du temps actuel. » Sachant l'attachement de Madame pour le roi, qu'elle affecte d'appeler monsieur, vous savez qu'elle ne lui dit pas, sire en public, mais monsieur, je tente de détourner la conversation sur la santé de Louis XIV, sur son humeur du moment. La réponse de Madame est pleine de satisfaction. J'y perçois même un fond de tendresse. Il est vrai que notre roi a encore très bonne mine, me dit-elle. Il est de si bonne humeur que c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et je la vois qui sourit. J'ose à ce moment-là l'interroger sur ses entretiens avec le roi. Je me dis qu'elle a peut-être des confidences à partager. J'ai sans doute là la main moins heureuse. Madame grimace de manière assez comique. Ça doit vouloir dire ces entretiens sont trop rares à mon gré. Elle soupire. Le soir, je soupe avec le roi. Vous savez, nous sommes 5 ou 6 à table. Chacun avale son affaire sans dire une parole, comme dans un couvent. Tout au plus, dit-on tout bas, quelques mots à son voisin. Madame souffre-t-elle de ces rapports un petit peu mornes et distants? Oui. Oui, oui, sans aucun doute, l'atmosphère de la cour semble lui peser. D'ailleurs, c'est elle qui revient sur le sujet. « Nulle part il n'y a ici de conversation, dit-elle. Monseigneur cause fort peu, aussi bien que le roi. Je crois que celui-ci compte les mots. » et qu'il a résolu de ne jamais dépasser un certain chiffre. Quant aux dames, elles ont une telle peur de dire quelque chose qui pût déplaire et les empêcher de venir ici à Marly qu'elles ne parlent que de toilettes et de jeux, ce qui me semble assez ennuyeux. Certain que la toilette, le jeu, ce ne sont pas là les divertissements de la belle-sœur de Louis XIV qui passe beaucoup de temps à écrire d'interminables lettres à sa famille allemande, mais qui surtout passe plus de temps encore à la comédie. C'est bien simple, elle ne s'en lasse pas, et dès qu'on évoque la comédie, les yeux de la princesse se mettent à pétiller. Madame regrette d'ailleurs que la comédie ne soit jouée à Versailles que l'hiver, jusqu'au jeudi qui précède la Semaine Sainte, et ne reprenne ensuite que l'automne. Qu'à l'automne, devrais-je dire. C'est pour elle le premier des divertissements, un divertissement supérieur même aux joies de la conversation. Elle explique, je la cite, « Je tiens les visites pour plus dangereuses que la comédie, car quand on se visite, il est difficile de ne pas parler du prochain, ce qui est un plus gros péché que d'assister à la comédie. » Et en disant cela, madame adresse un regard à son confesseur qui vient justement d'entrer dans la pièce et qui marche sur la pointe des pieds. Et elle précise, « Je n'approuverais pas qu'on alla au spectacle au lieu d'aller à l'église. Mais une fois qu'on s'estime en règle avec le bon Dieu, je trouve le spectacle moins dangereux pour la conscience que la conversation. » Alors justement, à propos du bon Dieu, on sait que sa conversion au catholicisme, nécessaire pour épouser le frère de Louis XIV, a été pour madame un crève-cœur. J'essaie en vain d'obtenir d'elle plus d'informations sur la question, seulement elle est quand même largement sur la réserve, ce qui ne l'empêche pas d'avoir, comme pour d'autres sujets, la dent dure envers les religieux. C'est le cadet des soucis des prêtres d'ici de faire connaître et admirer les œuvres merveilleuses de Dieu, dit-elle. Le Dieu de la plupart d'entre eux, c'est Mammon. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, il y a toujours cette volonté chez elle de citer les Écritures, un reste de son protestantisme natif. Elle n'hésite pas à ce sujet à égratigner le roi lui-même. Il est très pieux, mais il est fort ignorant des choses qui ont trait à la religion, dit-elle. Jamais de sa vie, il n'a lu la Bible. Il croit tout ce que lui disent les prêtres et les faux dévots. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les choses aient pris si mauvaise tournure. Bien sûr, cette remarque fait allusion directe à la persécution des protestants. Elle y pense, elle ne cesse d'y penser. Je ne peux qu'admirer tout de même cette incroyable liberté de ton. Vous imaginez quand même que nous sommes à la cour de Versailles, nous sommes là maintenant à quelques pas des appartements du roi. Chacun d'habitude surveille son langage, surveille sa pensée. Madame parle très librement, elle n'a d'ailleurs pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Presque à part elle, mais sans se soucier qu'on l'entende ou pas, elle ajoute « On a tellement détourné notre roi de toute grandeur qu'il n'y pense même plus. » On, madame a dit on, bien sûr, ce on doit cacher quelque ennemi, et plus particulièrement une ennemie mortelle, l'épouse morganatique du roi, madame de Maintenon, bien entendu. Le thème est délicat, je peux m'attendre à ce que madame ne dépasse pas le stade des allusions. Oh, mais c'est sous-estimer sa franchise légendaire. Dès que j'évoque le nom de madame de Maintenon, dont l'appartement se trouve juste au-dessus de celui de la princesse, madame lève les yeux et la voilà qui déjà persifle. Ah, la pantocrate. En fait, elle dit la pantocrate, mais bon, ça fait partie des mots qu'elle écorne un peu. La pantocrate a un grand pouvoir, dit-elle. L'insulte est dure, mais à vrai dire, on aurait pu s'attendre à pire, parce que dans ses lettres, dans les lettres que madame a écrites à sa famille, elle va bien plus loin. Madame de Maintenon y est décrite comme une conne, comme une ordure, une guenon, une crotte de souris ou encore une vieille guenipe. Voilà, voilà les jolis noms dont l'affuble la belle-sœur de son époux. Cette haine sans nuance est probablement nourrie d'un fond de mépris social envers cette femme, somme toute de très petite noblesse, veuve d'un poète sans le sou et cul-de-jatte pour le plaisir. Mais il est évident que du point de vue de la princesse très pure à ses yeux, que peut-être Madame Palatine, c'est déjà cette origine est en soi un problème. Mais la vérité, c'est que Madame de Maintenon a le cœur du roi et que le cœur du roi ne peut pas être à deux femmes en même temps. Et si c'était cela le grand problème de la princesse Palatine?
Europe 1,
14h-15h,
au cœur de l'histoire,
les grands portraits.
Franck Ferrand.
Elle a été le témoin privilégié de la cour de Versailles. Nous avons la chance d'assister à vos côtés, hein, Franck Ferrand, à votre entrevue rêvée avec la princesse Palatine.
Rêvée. Pour l'instant, ce n'est qu'une entrevue rêvée, mais il faut dire que les mots sont bien de la princesse Palatine. J'avais l'impression qu'elle s'ennuyait d'une certaine manière. Elle, à un moment, elle se tourne comme ça vers sa dame d'honneur et elle lui demande l'heure. Vous imaginez, ce sont des mœurs qui n'ont d'habitude aucun cours à Versailles. Alors, en l'occurrence, nous sommes à Marly. La princesse se tourne à ce moment-là vers moi, elle s'excuse quand même en bâillant. « Dans une demi-heure, nous allons assister à la musique », me dit-elle. Et elle précise, toujours sur le même ton, vaguement désabusé, « Ce ne sont que des rabâchages, car on chante uniquement les vieux opéras de Lully. Il m'arrive souvent de m'endormir en les écoutant. » Et ça, quand elle dit ça, vous pouvez lui faire confiance, c'est à prendre au pied de la lettre, car les assoupissements de madame sont devenus légendaires. On prétend même qu'à la messe, elle ne peut pas assister au moindre sermon sans se mettre à somnoler. Vous imaginez comme ça peut exaspérer le roi. D'une manière générale, madame est fatiguée de toutes ces obligations qu'on accole à son rang. Elle soupire, plus on est haut placé, plus il y a de contraintes. Si le rang de madame était une charge qu'on pût vendre, il y a beau temps que je m'en serais défaite, et à bas prix encore, dit-elle. C'est bien connu, celle que jadis on surnommait l'Iselotte regrette les joies simples de sa jeunesse. Dans son palatinat natal, la voilà qui évoque tout attendrie, semble-t-il, le souvenir des cerises mangées à 5h du matin sur la montagne. Une des dames qui sont là présentes, les joues un peu rougies, ose quand même intervenir pour essayer de défendre les bons côtés de la vie versaillaise, les autres joies qu'il est permis d'y trouver. Cependant, madame, avec une brusquerie étonnante, l'interrompt. Et elle lâche cette espèce de ton définitif qui lui a valu tant d'inimitié à la cour. Il faut l'avoir entendu pour comprendre à quel point elle peut être tranchante. Les femmes de France n'ont pas de joie véritable. Et elle se tourne vers moi, elle ajoute, pour vous en convaincre, monsieur, vous n'aurez qu'à les voir à leur jeu qui dure 24 heures. Quelle mine désespérée elles ont. L'une pleure à chaudes larmes, l'autre est rouge comme le feu et roule des yeux comme si elle allait avoir des convulsions. Une troisième est pâle comme la mort et sur le point de s'évanouir. Hommes et femmes ont l'air de posséder, ils ne peuvent souffrir personne autour d'eux. Voilà les joies d'ici, mais ce ne sont pas les miennes, non. Je préférerais faire un repas sur l'herbe avec de bons amis à côté d'une source. Comme on la comprend? En quelque sorte. Je pense, en l'écoutant ainsi, s'emporter contre les traditions trop guindées d'une cour de France si peu faite pour elle, je pense au portrait si juste qu'a tracé de la princesse un Saint-Simon habituellement plus dur. Il la trouve forte, écrit-il, courageuse, allemande au dernier point, franche, droite, bonne et bienfaisante, noble et grande en toutes ses manières, et petite au dernier point sur tout ce qui regardait ce qui lui était dû. Ah oui, ça, l'étiquette, le protocole, voilà bien un domaine sur lequel madame n'a pas du tout l'intention de transiger. C'est certain, cette femme, certes excessive, n'est pas mauvaise du tout, elle est juste malheureuse. En un rien de temps d'ailleurs, on la voit se radoucir, elle change d'humeur comme au printemps le ciel peut changer, dit-on à la cour. Elle joue à présent avec le plus jeune de ses espagnols, elle a plein d'espagnols, hein. Elle se promène toujours avec sa petite meute autour d'elle, et tous ses chiens jappent, etc. Elle est étonnante, d'ailleurs... Il y en a une qui me saute littéralement sur les genoux. Et ça, bien sûr, madame essaie de l'arrêter. Elle n'y arrive pas. Elle fait alors les présentations. Celle-ci, dit-elle, c'est Mion. Monsieur Leibniz soutient que les bêtes ont de l'intelligence, qu'elles ne sont pas des machines, comme l'a prétendu Descartes. Et ça, entre parenthèses, ça ouvre un très léger aperçu sur le sentiment philosophique de madame qui entretient une correspondance avec quelques-uns des esprits les plus brillants de son temps et qui s'intéresse aux questions les plus fondamentales. Il prétend, revient-elle en parlant de monsieur Leibniz, il prétend que les âmes des bêtes sont immortelles. Dans l'autre monde, j'aurai donc la joie de revoir non seulement parents et amis, mais encore toutes mes bêtes. Alors évidemment, on trouve cette saillie très drôle et autour de madame, les dames d'honneur très rassurées se mettent à rire, à applaudir, tout le monde a l'air très content. Il fallait pas applaudir si vite parce que madame ne s'en tient pas là, bien entendu. Elle reprend « Je serais bien attrapée si cela voulait dire que mon âme est mortelle comme la leur et que tous ensemble nous ne serons plus que néant ». Vous imaginez sortir une chose pareille à Marly, sous le toit du roi. Le bon prêtre qui est là observe les boucles de ses souliers, les dames se lèvent, la mine crispée. Même le laquais qui est là-bas à la porte n'a pas pu retenir un raclement de gorge. Et moi je me dis que mon audience pourrait s'achever ici et que le rêve pourrait me ramener gentiment à une réalité d'un autre temps. Alors, je remercie quand même poliment, je me fends de ma plus belle révérence. Liselotte ne détourne pas le regard, elle est toute à son tête-à-tête avec Mionne. Elle joue avec son chien, elle s'amuse à provoquer cette petite chienne. En allemand, elle rit de bon cœur à chaque aboiement. Et dans ces moments-là, auprès de ces chers animaux, je me dis que ce puits de tendresse doit pouvoir s'épancher un peu. Elle n'a pas beaucoup d'exutoire, vous savez, dans la cour de son beau-frère. Alors, la porte du cabinet est déjà en train de se refermer derrière moi, mon rêve est en train de se dissiper, je ne peux pas m'empêcher de songer à ce que doit être au fond la solitude de cette dame si verte, si pure, de cette grande dame perdue dans un univers si peu fait pour elle. Bonjour Jean-François Solnon.
Bonjour.
Navré de vous avoir entraîné dans mes rêveries. Dans un instant, nous allons revenir à des réalités plus terre à terre et je vais vous demander de nous faire un portrait le plus objectif possible de cette femme qui s'est attirée de son vivant beaucoup de haine et que le public aujourd'hui a tendance à beaucoup aimer.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits.
14h, 15h.
Franck Ferrand.
Sur Europe 1, la marche pour les différentes nations, extrait de Dardanus de Jean-Philippe Rameau, au cœur de la vie de la belle-sœur du roi Louis XIV, la princesse Palatine. Vous recevez Franck Ferrand aujourd'hui, l'historien et professeur émérite des universités, Jean-François Solnon, auteur notamment de Louis XIV, Vérités et légendes, paru chez Perrin.
Quand j'avais, cher Jean-François Solnon, troussé ce petit rêve il y a quelques années, je m'étais amusé à aller chercher des extraits des lettres de Madame Palatine. Le seul problème, c'est que les lettres en question sont écrites en allemand et que nous ne disposons que de traductions. On adorerait qu'elles les aient écrites en français.
Certes, mais les amateurs d'histoire devraient créer une statue en l'honneur de la princesse Palatine. Ce serait une statue de belle dimension.
Oui. Hein,
ce serait une statue
aussi
en bronze,
large que haute.
Une statue solide. Parce qu'elle nous a laissé évidemment un trésor. C'est une épistolière absolument exceptionnelle.
Combien de lettres a-t-elle écrit dans sa vie? Est-ce qu'on a une idée de ça?
On a une idée qui peut varier selon les historiens, comme toujours. Ils sont là pour ça. Peut-être 60 000 lettres.
60 000 lettres.
Dont on a conservé qu'un dixième. Alors, si vous voulez, on peut comparer avec les lettres de Madame de Sévigné. Madame
oui,
de Sévigné,
vrai.
C'est près de 1200 lettres. 60 000, dont un dixième donc, a été conservé.
Avec quand même une nuance, c'est que Madame de Sévigné, lorsqu'elle s'adresse à sa fille Madame de Grignan tout particulièrement, met beaucoup de style, beaucoup d'énergie dans
et
son
la Palatine
style.
Palatine n'a pas du tout de prétention littéraire et surtout, elle sait une chose, c'est que ses lettres ne seront pas lues, elles ne passeront pas
enfin,
à la postérité.
Enfin, elles ne seront pas lues par la postérité.
Par la postérité. C'était un usage à l'époque. On avait un double usage. La princesse Palatine reçoit des lettres de ses correspondants, elle les brûle aussitôt qu'elle leur a répondu.
Oui.
Un peu comme on efface des courriels sur notre ordinateur. Et puis le deuxième usage, c'est qu'à la mort de quelqu'un, on s'empresse d'ouvrir les cassettes, non pas pour lire les lettres, mais au contraire pour les jeter à la cheminée, les jeter au feu. Par conséquent, on a des choses très curieuses.
C'est l'intimité, c'est comme si c'était
oui,
l'âme de la personne.
Exactement. Et alors, on a, par exemple, Madame Palatine a probablement envoyé peut-être 3000 lettres à l'une de ses filles, à la duchesse de Lorraine. Il nous en reste 4. Elle a envoyé aussi peut-être plus de 1000 lettres à celle qui est devenue reine d'Espagne, qui était la fille de son mari, de monsieur. Il nous en reste aucune.
Eh oui.
Donc il y a des trous énormes. Alors elle écrit en allemand à ses correspondantes allemandes, en particulier à sa tante Sophie de Hanovre, qui l'a un peu élevée.
C'est sa correspondante principale, qui justifie peut-être cette incroyable prolixité, car il y a chez Madame Palatine la volonté, en écrivant ses lettres, d'échapper un peu à la réalité de tous les jours et de se confier, bien sûr.
D'autant qu'elle écrit du matin au soir.
Mais oui.
Elle n'arrête pas. Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est lorsqu'elle explique, en même temps qu'elle écrit, elle explique ce qu'elle fait. Alors, elle écrit et puis elle dit « je tombe de sommeil ». Alors, la plume reste en hauteur, comme ça. On imagine très bien qu'elle s'est endormie. Et puis elle dit « voilà, mon petit somme est terminé, je continue ». Mais elle l'explique, elle le raconte. De même qu'elle raconte
c'est
quand
très,
elle, va,
très vivant,
elle va manger.
Très vivant, oui.
Et elle reprend son texte après. Donc, elle se couche très très tard parce qu'elle écrit tout le temps.
Vous savez, il y a un fantasme pour tous les gens qui aiment l'histoire et qui se plongent volontiers dans le passé. Ce fantasme, c'est de pouvoir bénéficier d'un enregistrement audio ou pourquoi pas même vidéo de ce qui se passait. Eh bien, grâce à des témoins comme la princesse Palatine, on a un peu ce sentiment. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte est tellement vivant, elle décrit tellement les mouvements du chien dans la pièce, le valet qui vient l'interrompre pour lui apporter une dépêche, enfin, tout est décrit dans les lettres, ce qui fait qu'on a quand même l'impression d'y être et de partager cette intimité.
Oui, parce qu'on a affaire à une femme qui est d'une grande curiosité.
C'est ça.
Pour des domaines scientifiques, littéraires, philosophiques, ça c'est incontestable. On sait qu'elle a une bibliothèque extraordinaire, on sait que ses lettres sont truffées également de citations, de références littéraires. Mais en même temps, c'est une femme de bon sens. Donc elle raconte ce qu'elle voit. Vous savez, quand on est capable de rédiger une lettre de 20 à 30 feuillets, on en raconte des choses. Et ce qui l'intéresse, ce sont les petites choses. Elle ne veut pas laisser un message à la postérité, Madame Palatine. Elle parle de balivernes. Et lorsque ses correspondants s'excusent en disant « Vous savez, je vous ai raconté des choses un petit peu banales », elle dit « Mais c'est ça que j'aime. »
C'est ça qui m'amuse. Mais bien sûr, c'est sa vie. C'est sa seconde vie, d'une certaine manière.
Alors, vous parce que la première vie n'a pas été si heureuse.
On va y venir à la première vie dans un instant, bien entendu. Alors, c'est-à-dire à sa vraie vie, d'une certaine manière. Vous nous dites qu'à Sophie de Hanovre, elle écrivait en allemand et aux autres ?
Alors, elle peut écrire en français. On pense que parmi ces 60 000 lettres, d'autres disent 80 000. Enfin, restons raisonnables. La moitié est en français, la moitié est en allemand.
C'est ça. Alors, ce qui est très joli dans les lettres en allemand, ce sont les phrases du roi qui, elles, sont toujours écrites en français. Ça, c'est assez étonnant, comme si elle n'avait pas le droit de traduire en allemand les propos de Louis XIV. Et ça, c'est très précieux pour nous, parce que ça nous donne une image très précise du style qu'employait Louis XIV. Et notamment, quand Madame cite son beau-frère, il y a tous les quatre ou cinq mots, le petit mot « Aster », A-S-T-E-U-R, comme si c'était un tic de langage. Il semblerait que Louis XIV ait dit « Aster » comme ça, à tout propos. « Aster » à 7 heures,
oui,
en fait.
Bien sûr. Mais je crois qu'elle se méfie terriblement des traductions. Et c'est pour cette raison qu'elle ne traduit pas. Elle sait que traduction égale trahison. Elle ne veut pas traduire.
Elle sait aussi, évidemment, que le cabinet du roi, ce qu'on appelle le cabinet noir, ouvre sa correspondance et puise allègrement.
Elle le sait pertinemment. Ça va d'ailleurs lui jouer de très mauvais tours, même en le sachant. Alors c'est pour cette raison qu'elle essaye de contourner le cabinet noir. Lorsqu'elle a des visiteurs allemands...
Ce qu'on appelle
allemands,
le cabinet noir, c'est les services secrets chargés d'ouvrir le courrier pour renseigner le roi.
Voilà, le courrier qui le lit. Et elle essaye de contourner cet obstacle lorsque des voyageurs allemands viennent à la cour. Et bien elle leur confie des lettres. Un peu, c'est comme pendant la résistance, si vous voulez. On confie des lettres à des agents qui sont dévoués, qui sont très sûrs. Alors là, elle s'en donne à cœur joie.
Ces lettres-là sont beaucoup plus amusantes, forcément. Alors justement, c'est la question que nous pose Aurélie via Twitter, qui nous demande est-ce qu'il y a une édition à recommander particulièrement de ces lettres de la princesse Palatine, une édition qui serait moins expurgée, qui serait moins censurée que d'autres?
Alors, les premières éditions qui ont été expurgées, ce sont des éditions du 19e siècle, qu'on ne peut trouver évidemment que dans les bibliothèques. Mais nous avons à notre disposition un volume publié par le Mercure de France,
dans la collection Le Temps Retrouvé.
Ce sont des extraits, c'est une traduction, ça date un peu, c'est évident, mais c'est quand même très précieux. Et puis l'autre, eh bien, ce sont les lettres françaises.
Pardon, dans la version du Temps Retrouvé, c'est que c'est une traduction du début du XVIIIe siècle, donc qui garde quand même la sonorité, si je puis dire.
Et puis on est très heureux de les avoir.
Oui, c'est ça,
déjà une première chose. Et puis il y a un autre volume très important qui s'appelle Les Lettres Françaises, qui a été édité par le grand spécialiste de Madame Palatine, qui est un professeur à l'université d'Anvers, Van der Kruis, qui est le meilleur connaisseur
et biographe,
et le grand connaisseur de sa correspondance.
Est-ce qu'on peut dire qu'on possède une infime minorité des lettres de Madame Palatine.
Ah oui.
Combien est-ce qu'on en a?
Un dixième.
Un dixième, hein, c'est ça, voilà.
On a à peu près 10% de ce qu'on imagine être, puisqu'on ne les connaît pas.
Oui, bien sûr.
On imagine être 60 000.
Et déjà, c'est d'une profusion extraordinaire. On a déjà, c'est ce qui a suscité tout à l'heure cette rêverie, c'est qu'on a l'impression d'y être quand même.
Vous imaginez sa vie durant, depuis son mariage avec monsieur en 1671 jusqu'à sa mort en 1722, du matin au soir.
Alors justement, venons un peu à l'autre vie de Madame Palatine. Elle est née à Heidelberg, donc elle est...
C'est la fille du comte palatin du Rhin, c'est une expression qui est assez savoureuse.
Je cherchais si je pouvais dire qu'elle était rhénane, oui on peut dire qu'elle est rhénane.
Ah oui, elle est très rhénane, c'est une région de l'Allemagne de l'Ouest qui est extrêmement cultivée, qui est très développée économiquement, et là il y a toutes sortes de petites principautés, et il y a entre autres donc le Palatinat rhénan. Elle appartient donc à la famille des Wittelsbach, mais on l'appelle Elisabeth Charlotte von der Pfalz, c'est-à-dire du Palatinat. Et là, il y a quantité de rameaux.
D'où le nom de princesse Palatine.
En fait, on a un petit peu tort de l'appeler ainsi, parce que la Palatine, au XVIIe siècle, c'est une autre femme, c'est sa cousine d'ailleurs, qui est la fille du duc de Mantoue et de Gonzague, cette femme qui a été très active pendant la Fronde, et qui, après avoir mené une vie plutôt désordonnée, s'est convertie, si j'ose dire, à la religion et a fini pieusement. Donc c'est elle vraiment la Palatine. Mais l'usage fait que Elisabeth Charlotte de Bavière, épouse de monsieur, par conséquent Elisabeth Charlotte d'Orléans, dite madame, on l'appelle par tradition
même,
la Palatine, la princesse
même
Palatine.
L'appeler de France, hein. Elle est au premier rang des princes de France, bien entendu.
Ah oui, et même
hein,
à un moment donné, après la mort de la reine Marie-Thérèse et de la dauphine, c'est elle qui occupe le premier rang.
Et c'est ça.
Pendant
la première
moment.
Dame du royaume.
Ah oui, vraiment.
Et évidemment, tout cet extraordinaire prestige se rend, elle le doit, à son mariage avec le frère de Louis XIV. Comment est-ce qu'il s'est fait ce mariage? C'est un remariage pour le prince.
Monsieur, donc Philippe d'Orléans, a perdu son épouse.
La célèbre Henriette
d'Angleterre. Hein. Madame se meurt, madame est morte, n'est-ce pas? Elle est morte après avoir absorbé un verre d'eau de chicorée. Mm-hmm. Et quand on meurt brutalement, à cette époque-là, on imagine toujours un empoisonnement possible. Et monsieur doit se remarier. Parce qu'on ne peut pas imaginer un veuf non remarié. Le célibat, c'est bon pour les religieux, si vous voulez, mais c'est pas bon pour un fils de France.
C'est d'autant plus vrai lorsque ce fils de France est entouré de mignons, qu'il ne cache pas du tout son homosexualité et qu'il faut essayer de faire taire le plus possible des rumeurs qui deviennent gênantes.
Oui, et éventuellement aussi, il n'a eu que des filles de son premier mariage, éventuellement avoir aussi des descendants parce qu'à la même époque, c'est-à-dire en 1671, lors du deuxième mariage de monsieur, le roi de France a eu un fils, le dauphin, Monseigneur, le grand dauphin, et puis d'autres enfants qui sont morts immédiatement après leur naissance.
Et
par conséquent,
dauphin,
tout repose sur le dauphin, qui est donc à l'époque à 10 ans.
Qui n'a que 10 ans.
Donc il serait quand même bon, même si on n'aime pas trop les branches collatérales dans le royaume de France, il serait bon que monsieur puisse se remarier, et s'il veut bien... faire des enfants à son épouse.
Et ça ne va pas être une petite affaire. Quand Madame Palatine raconte le cérémonial, c'est assez extravagant.
Quand elle a rencontré son mari, c'est fantastique. Elle a vu arriver, lors de la première rencontre dans l'Est de la France, un monsieur de petite taille, d'ailleurs, monté, dira Saint-Simon plus tard, sur des échasses, c'est-à-dire des hauts talons. Hein, et c'est plus que des talonnettes, ce sont vraiment de hauts talons. Et il est couvert de rubans, là on peut mettre des rubans sur son vêtement, on en a mis, de pierreries, etc. Il est très noir de poils, il a cette perruque noire, il a des sourcils noirs. Elle voit ce monsieur avec un vêtement tout à fait extravagant. Et lui-même découvre cette femme, il aurait dit cette phrase, et il faut que je couche avec elle. Non pas qu'elle soit laide, elle a 19 ans,
non,
donc on peut lui prêter quand même un certain charme, une fraîcheur. Évidemment, l'âge aidant, tout ça va se gâter un petit peu, mais il va lui faire tout de même 3 enfants. Alors il y a un fils aîné, ça c'est pas mal, hein. Commencer une progéniture par un fils,
à coup d'eau bénite et de médailles miraculeuses.
Ah oui, et des médailles miraculeuses que monsieur promène sur son corps, là où éventuellement il peut engendrer.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Élisabeth Charlotte de Bavière, la princesse palatine est votre grand portrait d'aujourd'hui, Franck Ferrand. Et vous recevez l'historien et professeur émérite des universités, Jean-François Solnon, auteur notamment de Louis XIV, Vérités et légendes, aux éditions Perrin.
Et la pauvre petite Liselotte, arrivant de sa Rhénanie natale, découvre donc à qui on l'a marié, au frère du roi de France certes, mais qui est un drôle de bonhomme et qui est lui-même entouré de toute une pléthore d'amants et de messieurs très, très voyants et qui vont devenir les ennemis de la princesse, il faut le dire.
Oui, non seulement ce sont des gens qui sont très voyants, qui sont souvent un peu excentriques, mais qui sont extraordinairement cupides.
C'est ça, oui. Très intéressés.
Et qui sont très soucieux de grandir encore à la cour, d'avoir des charges, des fonctions, des responsabilités et surtout des pensions. Et ils vont en quelque sorte tout faire pour décourager madame qui n'est pas hostile à son mari. On peut même imaginer qu'elle aime cet homme.
Elle n'a jamais de mots désagréables à son égard.
Par conséquent, elle va être la victime de véritables cabales. On va mettre en cause, par exemple, la pureté de ses mœurs. On va lui prêter un amant, qui s'appelait Saint-Saëns d'ailleurs, comme le futur musicien. Et elle est obligée de se défendre. Et elle en a tellement assez, parce que c'est un caractère.
Monsieur n'est pas tendre avec elle.
Non,
c'est-à-dire
au contraire.
Qu'il prête une oreille complaisante.
Exactement.
À tout ce genre de...
Et puis elle en a tellement, tellement assez qu'elle se demande même si elle ne va pas quitter la cour. Et elle s'en ouvre au roi. Pour lequel elle a d'ailleurs de l'affection et une affection réciproque.
Une affection qui ne fera que grandir.
Et le roi lui répond, vous êtes madame. Et quand on est madame, on reste à son poste.
On tient
et
bon.
Par conséquent, le calvaire va continuer. Alors justement, dans ses lettres, évidemment, elle vide sa bile et on comprend, c'est une sorte de manière d'exorciser les souffrances qu'elle peut endurer.
Oui, c'est d'ailleurs, les lettres vont changer de ton au fil des décennies. Celles où j'ai puisé tout à l'heure sont des lettres de la période 1710-11-12, c'est-à-dire vraiment vers la fin du règne de Louis XIV, quand elle est déjà veuve, etc., où elle ne parle alors vraiment plus que de petites choses ou de philosophie. Alors que dans les premières lettres, elle raconte vraiment ce qui se passe à la cour, et c'est un véritable reportage auquel on assiste dans les années 1670-80 pour les rares lettres qui ont été préservées. C'est toujours le même problème.
Oui, alors c'est un excellent reportage, mais il faut, comme toujours avec des sources historiques, il faut savoir exercer son esprit critique parce que c'est une femme qui a des préjugés. D'abord, elle a des préjugés
de
naissance.
Oui, très important.
Parce que ça ne plaisante pas sur la noblesse quand on vient du Palatinat rhénan. Par conséquent, quand elle voit que l'étiquette n'est pas respectée, comme vous l'avez lu tout à l'heure, elle en est très fâchée. Elle est très soucieuse de hiérarchie et elle n'aime pas du tout qu'on prenne des libertés avec l'étiquette. Mais aussi, elle a des inimitiés. Et bien entendu, on pense immédiatement à celle qui a 17 ans de plus qu'elle, c'est-à-dire Madame de Maintenon, qu'elle traite de tous les noms. Vous avez donné quelques exemples, je peux en rajouter, parce qu'évidemment, on s'excite toujours beaucoup sur ce genre de vocabulaire. Elle est très, très crue. On peut ajouter celle-ci. J'espère qu'elle crèvera avant moi. C'est
plusieurs
troublant
fois, plusieurs fois.
Dans ce climat un petit peu aseptisé qu'est la cour de France, où chacun surveille son vocabulaire, elle, grâce à la lettre, elle peut écrire ce qui lui plaît.
Ce qui est très étrange, c'est qu'on sait à quel point Louis XIV ne plaisantait pas lui non plus sur l'étiquette et sur la bienséance. Il était même très très pesant de ce point de vue. Et on a l'impression qu'il pardonne tout à sa belle-sœur. Elle l'accompagne très quotidiennement à la chasse. Elle est à côté de lui à la messe. Enfin bref, il se voit beaucoup. Tous les soupers au grand couvert ont lieu en présence de madame. Alors au départ, quand elle est l'épouse de monsieur, et puis quand elle devient veuve, elle est encore plus proche, si je puis dire, du roi. Donc ils passent un temps fou chaque jour ensemble et on a l'impression que Louis XIV, même s'il soupire de temps en temps, lui passe à peu près tous ses caprices.
Il l'a très bien accueilli. Et d'ailleurs, c'est assez émouvant de voir ce qui s'est passé vraiment. Madame Palatine arrive à la cour de France, c'est la plus brillante cour du monde. Et elle appréhende d'être présentée à la reine Marie-Thérèse. Et Louis XIV a des mots extrêmement gentils pour la libérer de toute angoisse. Il lui dit, vous savez, en parlant de la reine, en parlant de sa femme, elle a plus peur de vous que vous d'elle. Donc il la met à l'aise en quelque sorte. Et puis lorsqu'elle fait donc beaucoup d'équitation, parce qu'elle adore chasser, elle adore monter, il lui arrive donc très souvent de chuter. Et lorsqu'une chute a été plus dure que les autres, elle est tout à fait émue de voir son beau-frère s'approcher d'elle, lui demander si elle va bien, faire venir le médecin, encore qu'il vaudrait mieux écarter les médecins que les faire venir dans cette condition-là.
Bon signe,
Et d'ailleurs elle s'en méfie terriblement, Madame Palatine, des médecins. Mais vraiment, il est plein d'attention attention à son égard. Il faut dire qu'il a été très amusé par cette femme. D'abord, c'est une femme qui aime la nature, comme lui. C'est une femme qui aime les jardins, comme lui. C'est une femme qui aime la chasse, comme lui. C'est une femme qui aime la collection des médailles, et des monnaies, comme lui. Et donc, il y a beaucoup de points communs.
Et si c'était à la cour la seule femme qui ose lui parler franchement, tout simplement?
Oui, et d'ailleurs, à telle enseigne que lorsque les relations vont être un petit peu plus difficiles...
Alors là, il faut qu'on parle des mariages.
Eh bien là, le Louis XIV va ne plus l'accepter dans les parties de chasse. Parce que c'est au moment de la chasse qu'on peut parler au roi sans trop de difficultés. Donc, il y a une sorte de blackout... parce que la querelle est née entre le roi et sa belle-sœur.
Alors la querelle, elle vient de la volonté de Louis XIV de donner pour époux et pour épouse aux enfants que Madame Palatine a eus avec monsieur, de leur donner ses propres bâtards comme en mariage. Ça ne plaît pas du tout à Madame, à la princesse, hein,
Ça ne plaît pas en France, ça plaît encore moins en Allemagne, dont elle est originaire. En effet, l'idée de Louis XIV, eh bien, c'est de faire accéder ses enfants illégitimes qu'il a légitimés, issus de sa liaison avec Mademoiselle de la Vallière et avec Madame de Montespan, et de les hisser ainsi dans la famille royale. Alors, ça a commencé en 1680. Lorsque Mademoiselle de Blois, la fille qu'il a eue avec Louise de la Vallière, a épousé le prince de Conti. Ça s'est prolongé 5 ans plus tard avec un mariage similaire. Et puis là, nous sommes en 1692. Et l'idée de Louis XIV, c'est de marier le duc du Maine, son fils légitimé, et la sœur de celui-ci, au fils et à la fille de Madame Palatine et de Monsieur.
Oh là là.
Et là, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et Louis XIV a dû utiliser une véritable stratégie pour faire accepter ce double mariage. En fait, il n'y aura qu'un mariage.
Il a joué de la faiblesse de son frère, en fait.
Hein. Ah ben, écoutez, l'événement...
Il a tenu la belle-sœur le plus loin possible.
L'événement se déroule à Versailles au mois de janvier 1692. Louis XIV a convoqué son neveu Philippe d'Orléans, le futur régent de France, celui qui doit être marié, avec le père de celui-ci, c'est-à-dire monsieur. Voilà donc les trois hommes. Et Louis XIV explique à son neveu que l'état de guerre qui règne en France, dans l'Europe du temps, lui interdit de lui proposer une princesse étrangère. Et il veut lui donner, c'est Louis XIV qui parle, hein, il veut lui donner une preuve de sa tendresse, en lui proposant en effet sa fille légitimée, la deuxième Mademoiselle de Blois. Et il lui dit, bien entendu, vous êtes libre de refuser.
C'est alors, Louis XIV qui parle.
le futur régent explique, un petit peu timide, ben, tout dépend de la vie de mes parents. Et monsieur est présent. Alors Louis XIV se tourne vers son frère en lui disant, n'est-il pas monsieur? Philippe d'Orléans est obligé d'accepter, il ne reste plus qu'à prévenir madame. Alors l'après-midi, on rencontre madame, on lui explique, madame alors est comme une véritable statue de sel, elle s'en doutait depuis quelques années, mais là la demande est véritablement réelle, ça devient officiel, et le soir, au repas, madame ne cesse de pleurer dans son assiette, le roi est plein de prévenances pour elle, il essaie d'arrondir les angles, et le lendemain, lorsque toute la cour est aux abois, évidemment, elle présente, elle écoute ce qui va se dire, on observe tout et on voit donc le roi partir pour la messe. Le Philippe d'Orléans, le futur régent, vient le saluer. Madame salue également, mais lorsque le roi lui fait une profonde révérence, elle lui tourne le dos aussitôt, ne lui montre que son dos. Et l'après-midi, lorsque son fils vient lui faire hommage, eh bien là, elle lui envoie une gifle magistrale.
Très retentissante.
Retentissante, dont tout le monde a pris conscience, évidemment. Elle exprime ici son désaveu pour ce mariage qui lui semble absolument contraire à toutes les règles.
Sans doute l'une des gifles les plus célèbres de l'histoire de France.
Très probablement, avec le coup de l'ambassadeur, vous savez, de France à Alger,
soufflet. C'est ça, exactement.
Voilà, il y a des gifles connues.
On devrait faire d'ailleurs un recueil, une émission sur les gifles célèbres. Alors, Madame Palatine, là, a pu s'en sortir, si je puis dire, avec une gifle. C'était beaucoup plus difficile lors de l'autre moment terrible de sa vie, lorsqu'elle apprend que les propres troupes françaises, les troupes de son beau-frère, sont en train de mettre à sac sa région natale, son Palatinat, son pays. Là, son cœur saigne, on peut le dire.
Ça, c'est le moment le plus vraiment dramatique pour elle. Et c'est une des tâches indélébiles qui pèse toujours sur le règne de Louis XIV. Quand on va aujourd'hui à Heidelberg, dont le château a été rasé, on s'aperçoit qu'il ne reste qu'une façade, comme un décor de théâtre. On n'a pas reconstruit derrière. Donc on a une façade avec des fenêtres qui sont sans fenêtres, des croisées qui sont ouvertes sur rien, en quelque sorte. Trois reprises, le Palatinat a été mis à sac. Alors on se dit, mais quelles ont été les motivations? La première fois, c'était au temps de M. Turenne. C'était en 1674. La deuxième fois, beaucoup plus importante, commandée par Louvois, c'est en 1688-89.
Et là, vous avez prononcé le nom, c'est Louvois qui est à l'origine.
Ah, c'est Louvois qui est à l'origine. Alors, ça veut dire, on détruit Mayence, on détruit Spire, on détruit Worms, on détruit Heidelberg. On ne laisse pas une maison. Les habitants, les civils n'ont que 6 jours pour quitter le tout. Et on se dit, mais pour quelle raison se livrer à de telles exactions? Eh bien, pour les stratèges sikhs de l'époque, c'est de pratiquer la terre brûlée. C'est-à-dire, il ne faut pas que les ennemis puissent trouver des réserves alimentaires, par exemple, dans la région. Et puis aussi, ce qui nous fait froid dans le dos, de terroriser les populations. Quand on pense que le château de Heidelberg a été détruit, a été mis à sac, c'est le château où est née la princesse Palatine. Et cette guerre, qu'on appelle en France la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et qu'on appelle en Allemagne la Ligue de Succession Palatine, c'est en son nom, la malheureuse.
Oui, c'est pour elle.
C'est en son nom qu'elle a été faite, alors qu'elle n'y est pour rien, elle n'est pas concernée du tout par l'affaire.
C'est un moment absolument terrible. On s'étonne même qu'elle ait pu maintenir un certain faux-semblant, une certaine apparence dans cette horreur.
Tenir son rang.
Elle a tenu son rang. Alors, vous voyez que, en partant de choses très légères, on peut en venir à des sujets très graves. Pour clore, justement, de manière un peu plus agréable, il faut peut-être dire un mot des propriétés de Madame Palatine, surtout lorsque, devenue veuve, elle est à la tête du château de Saint-Cloud, du palais royal à Paris.
Elle adorait Saint-Cloud. Oui. Il faut dire qu'on peut la comprendre, elle adorait Saint-Cloud.
C'était la plus belle maison d'Europe, disait-on.
L'air y était bon, c'était très agréable. Elle déteste Paris. Elle considère qu'à Paris, on prend toutes les maladies possibles et imaginables. Elle ne veut pas l'être. Malheureusement, elle y est contrainte. Et à la mort de son mari, elle ne peut pas hériter de Saint-Cloud. C'est son fils, c'est Philippe, le futur régent, qui hérite de Saint-Cloud. Elle va vivre au Palais Royal.
Alors justement, Philippe devient régent de France, ce qui fait d'elle une sorte de reine-mère pendant plusieurs années. C'est assez étonnant. Elle s'intéresse beaucoup à la santé du petit roi. Et l'une des dernières joies pour elle en ce monde aurait été d'assister au couronnement de Louis XV. Enfin, au sacre, devrais-je dire.
Au sacre de Louis XV, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas voulu se mêler de politique. Elle est très attentive à son fils. Vous savez, le futur régent promettait beaucoup. Il a tenu également beaucoup, mais elle blâmait son libertinage à la fois de pensée, parce qu'elle reste très chrétienne, profondément chrétienne, très largement protestante, en dépit de sa conversion. Mais le libertinage de son fils lui déplaît, et le libertinage moral du régent l'agace beaucoup. Mais elle ne veut pas être une sorte d'intermédiaire entre des quémandeurs, des solliciteurs et le régent de France. Elle a cette réponse qu'elle fait à tout le monde, « Je ne me mêle de rien ».
Elle va donc partir aussi discrètement qu'elle était arrivée, si je puis dire, après, entre ces deux dates, avoir fait quand même beaucoup de bruit. Merci beaucoup Jean-François Solnon. Je rappelle le titre de votre plus récent ouvrage, Louis XIV, Vérités et Légendes, voilà qui permet justement de remettre les pendules à l'heure, et c'est publié chez Perrin.
Et dans un instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Camille sur les origines de la brosse à dents.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1. Retour aux origines.
Et Camille nous a posé sa question sur europe1.fr. Quelle est l'origine de la brosse à dents?
La brosse à dents, figurez-vous, ça vient très tard. Et ça vient des Chinois. Mais avant la brosse à dents, on se brossait déjà, enfin en tout cas on se nettoyait les dents. Vous savez que les Égyptiens utilisaient une sorte de dentifrice qu'on appelait le sonabou. C'était un mélange de cendre et d'argile. Tout ça était censé assurer une bonne hygiène. Beaucoup plus tard, le célèbre médecin et philosophe persan Avicenne, Ali ibn Sina, vous savez, va préconiser de son côté de se frotter la bouche avec une poudre qui n'est pas très ragoûtante non plus, à base d'écume de mer, de sel, de gypse, donc d'une roche saline et de coquilles d'escargots brûlés. Bref, alors on a utilisé toutes sortes de petits ustensiles, des espèces de cure-dents en bois tout simplement, en poêle, en épines de porc-épic ou en plumes tout simplement. Bref, le moyen le plus simple de se nettoyer les dents pendant très longtemps, c'était simplement d'utiliser un linge, disons les choses. C'est en 1498, allez disons en 1500 parce que je trouve cette précision un petit peu douteuse, que l'on voit apparaître la brosse à dents en Chine donc. Et il faudra attendre que des voyageurs qui sont coutumiers de l'Extrême-Orient la rapportent dans leur bagage pour qu'elle fasse une apparition assez timide, disons-le, à la cour de Louis XV, donc seulement au XVIIIe siècle. Alors on dit que Napoléon aurait été très attaché à sa brosse à dents, il en conservait une dans chacun de ses nécessaires de toilette, ces merveilleux nécessaires de l'empereur qui étaient dont tous les ustensiles étaient en vermeil, bien entendu. Au gré des époques, les versions vont un petit peu différer, poils de chevaux ou de porc, manches en os ou manches de bois. Néanmoins, on va peu à peu se mettre à délaisser cet ustensile, car on considère que non seulement la brosse à dents est un peu agressive pour les gencives, mais surtout, c'est un véritable nid à microbes. Vous imaginez ces brosses qu'on gardait très longtemps en poils naturels et tout ça? Bon, je préfère ne même pas trop m'apesantir. C'est seulement en 1938 qu'une société américaine va réintroduire la brosse à dents dans les usages grâce à l'usage de la fibre synthétique de nylon, bien entendu. Alors là, on a des brosses à dents qui deviennent beaucoup plus saines, et c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'usage va littéralement exploser. Et voilà, merci beaucoup Anne-Sophie, nous nous retrouvons demain.
Et oui, merci Franck, à demain, et dans quelques instants, c'est Qui vive, présenté par Raphaël Antoven sur Europe 1. Il est 15h.